ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Comment ne pas être découragé? On salue le travail de notre collègue Michel Jean, puis on salue nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, mais je veux dire, à part la colère, l'indignation. Je dirais bien sympathique Marguerite Blais, là, mais à un moment donné, ça va faire.
Mais il y a quand même, il y avait effectivement une inquiétude sur les systèmes de ventilation. On l'avait vu sur les bateaux de croisière, là, où on s'inquiétait que le virus se promène d'une chambre à l'autre. Mais il y a une raison aussi pourquoi tu dis on a eu des décennies là pour en installer de la ventilation aussi dans les
CHSLD. Il y a eu des décès, puis je me souviens plus de la date, je pense que c'est 2007, mais je prendrai le temps de vérifier tout à l'heure. Il y avait une vague de chaleur énorme en Europe, te rappelles-tu?
Oui, il y avait eu un bilan.
Mais des dizaines de milliers de morts. Et en particulier, je me souviens parce que cet été-là, c'est un hasard, mais j'étais en France avec mon mari et mon fils et il faisait des chaleurs épouvantables, mais les personnes âgées là mouraient à pleine poche dans l'équivalent des CHSLD en France, ce qu'on appelle les EHPAD. Et qu'est-ce que ça a provoqué en Europe? Les gens ont dit il faut impérativement équiper toutes ces résidences-là de climatisation, ça n'a pas de sens. Puis c'était au début des années 2000. Mais on n'a pas entendu le message au Québec. Au Québec, c'est un des endroits au monde, si ce n'est l'endroit au monde, où il y a le plus grand écart de température. Tu sais, il fait moins 40 l'hiver, puis il fait plus 40 l'été. Mais c'est pas une surprise. On se réveille pas chaque été au Québec en disant « Oh mon Dieu, il fait chaud! » On le sait qu'il fait chaud. Il y a des canicules chaque année. À la place des gens qui sont à CHSLD, là, je serais outré.
Et on voit dans certains CHSLD, une des raisons pourquoi on n'installe pas de système de climatisation, c'est parce que, entre autres, le système électrique est trop précaire.
Il n'est pas capable de le prendre.
Je veux dire, donc on peut même pas l'installer tellement les édifices sont vétustes. C'était le cas du CHSLD Jeanne Lebert. 4 chambres climatisées sur 274.
Non, mais écoute, hier, je faisais une entrevue avec le docteur François Marquis, qui est à la tête des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis ma première question, ça a été ça. Je lui ai dit, est-ce qu'il fait chaud à l'hôpital? Il dit, écoutez, aux soins intensifs, c'est climatisé, mais c'est le seul endroit de l'hôpital qui est climatisé. Un hôpital! Les chambres ne sont pas... Non, je m'excuse, je suis vraiment là. Aujourd'hui, je suis sur le petit bord de péter ma coche. Un hôpital, on est-tu dans le fin fond de l'Afrique? On est-tu dans un pays en voie de développement ou on est dans un pays occidental, un pays riche en 2020?
Oui, c'est plus qu'une question de confort. C'est vraiment parce que, d'ailleurs, Mylène Drouin, de la Santé publique à Montréal, disait « C'est un impact possiblement fatal pour les personnes âgées, un risque immédiat à la santé. » Là. Donc, c'est pas juste une question de confort. Puis leur donner un petit jus glacé ou de la crème glacée, ça fera pas la différence.
Il y avait une histoire hier, puis là, je me souviens plus dans quel établissement c'était, une dame dont la mère est dans un CHSLD ou une résidence pour aînés. Elle a supplié la direction de dire, est-ce que je peux, s'il vous plaît, aller porter un ventilateur à ma mère? La direction ne voulait pas.
Mais entre autres, l'on dit, on ne doit pas projeter l'air vers le visage des pensionnaires, mais c'est parce que c'est plutôt ça qui fait du bien. Si t'es pas climatisé, que tu peux pas envoyer de l'air sur une... Mais là, à un moment donné...
Déjà, ils ont pas de bain. Là, au moins un bain, ça peut rafraîchir. En tout cas, bref, oui. je vais aller prendre une camomille pour me calmer, parce que vraiment, ce genre d'informations-là, ça...
Mais il y a du personnel qui disait d'ailleurs donner des bains avec l'équipement, ça devient un sauna également qui en rajoute pour le personnel. Parce qu'il faut se rappeler qu'eux autres en plus sont dans des combinaisons avec des masques, ça doit
être... Et
ils n'ont nulle part où aller se rafraîchir quelques heures pour reprendre le dessus. Il va y avoir probablement des coups de chaleur dans le personnel là, aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, présentement à Montréal, là, c'est 31 degrés.
Mais
c'est pas fini.
Midex,
on va rajouter 4 degrés d'ici la fin de la journée pour atteindre 35 et 40 avec l'humidex, peut-être même un peu plus, dépendamment d'où on est. Donc, ce sera particulièrement difficile. Vraiment alerte de chaleur accablante sur une grande partie du Québec, avec quelques risques d'orage aussi.
Bon, ben tu fais le bulletin de météo en plus de faire le bulletin
Pourquoi
de nouvelles.
Pas.
C'était donc
Pourquoi
parfait.
Pas.
Parlons de Justin Trudeau, la fin de la PCU, pour quand exactement?
Ben, on ne le sait pas encore, mais clairement, dans le discours de M. Trudeau, on sent la fin de la prestation canadienne d'urgence arriver, si on se fie à son discours. Toujours un peu qu'on doit interpréter, là, parce que c'est pas toujours très clair, mais il explique que les gens auront de moins en moins besoin de la PCU, ce qui est pas toujours le cas, là. mais invite les entreprises à se prémunir du programme de subvention salariale qui est vraiment ce que Justin Trudeau souhaite pousser pour remplacer la PCU en disant les entreprises vont rouvrir, les gens vont retrouver leur emploi, ce qui est pas toujours le cas encore. Des entreprises qui ont fermé, les restaurants ne peuvent vont pas rouvrir non plus nécessairement bientôt, mais on sent que la prestation canadienne d'urgence, qui est critiquée par beaucoup d'entreprises aussi, disant que ça empêche plusieurs personnes de retourner au travail.
C'est pas un incitatif.
Donc, est-ce qu'on peut prévoir que ce sera terminé à la fin juin, comme prévu, après 16 semaines? Du moins, le discours de Justin Trudeau le laisse croire. On peut écouter un extrait du premier ministre là-dessus.
Ça va être important de bien mettre fin de façon raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leurs revenus.
Bon, alors, fallait les aider, mais effectivement, ça aura une fin. On n'a pas voulu, par contre, donner de détails à Justin Trudeau, ce qui va la prolonger peut-être un peu, pas du tout. On verra, parce que pour certaines personnes, ça va être une catastrophe, l'arrêt de la PCU, là, parce que quand t'as pas d'autre travail, ce sera plus difficile. Mais ça va régler un problème de main-d'œuvre dans bien des industries, ça, c'est clair.
Ça, c'est tout à fait clair. L'ouverture des campings, excuse-moi.
Oui, très attendu. Sophie Dana, écoute, assez hâte de partir avec ta tante roulotte faire le tour du Québec.
Here I come.
Absolument, parce que c'était très attendu et on l'attend, cette annonce, 15h30, ministre du Tourisme Caroline Proulx qui fera l'annonce. On parle beaucoup du camping, mais c'est pas seulement ça. Il y aura un plan de réouverture concernant certaines activités touristiques estivales. Donc, on parle entre autres des chalets qui devraient être en cellule familiale, sauf ceux situé dans la communauté métropolitaine de Montréal et de Joliette, où on devrait attendre encore un peu. On parle également possiblement des marinas, donc certaines activités qui pourront reprendre. Entre autres, il y aura des contrôles intensifs, parce qu'évidemment, comme tout, ça rouvre, mais d'une façon différente. Donc, terrain de camping, chalet, où les propriétaires devront s'assurer que les campeurs, par exemple, proviennent d'une même famille. Alors, il devra y avoir une vérification. Là, les gangs d'amis pourront pas nécessairement aller se louer de terrain de camping ou aller avec leur roulotte si on n'est pas de la même famille. Accès limité aussi au bloc sanitaire. Alors, ceux qui n'ont pas de roulotte, donc ceux qui ont des tentes, par exemple, pourront avoir accès au bloc sanitaire. Ce sera réservé pour eux. Mais le fonctionnement sera surveillé. Casse-croûte dans les campings, seulement ouvert pour les repas à emporter. Alors, on pourra pas, en fait, les 3 tables de pique-nique ne seront pas accessibles. Et les piscines extérieures vont devoir rester fermées pour l'instant. On donnera des directives plus tard.
Non, t'es pas sérieux.
Ben, c'est ce qu'on dit, là. Donc, on verra l'annonce à 15h30, mais faudra attendre un petit peu plus tard en juin. Et pour ce qui est des voyages entre les régions, ce sera permis, mais on encourage fortement les gens à faire toute leur commission avant de se rendre. Alors, si vous allez en camping dans le Bas-Saint-Laurent, que vous êtes de la région de Québec ou autre, ben vous faites vos achats et vous arrivez sur votre terrain et vous vous promenez pas comme ça pour magasiner en région.
D'accord. OK. Alors, hier ou c'est ce matin dans le journal, on apprenait que les pertes dans le milieu touristique, je pense, c'est évalué 3,9 milliards.
Exact. Oui.
Je lisais ça ce matin puis je me disais c'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut aider d'une façon, au lieu de rester à Montréal, on s'en va dans Charlevoix. Fait que j'appelle Minou, appelle Pitou ce matin. Tiens, oui. On irait-tu dans Charlevoix, Minou ou Pitou? Fait que là, une petite discussion là-dessus ce matin. Tu sais, il y a plein de beaux hôtels dans Charlevoix, mais là, si on nous dit que on est encouragé à ne pas aller, bon ben bye bye le bel hôtel dans Charlevoix.
Non, mais t'es encouragé. Tout ce que ça dit, c'est que tu dois faire tous tes achats avant de te rendre à destination.
Ben oui, mais si je m'en vais dans un hôtel dans Charlevoix, je fais quoi? Je fais toutes mes courses ici à Montréal pour les 2 prochaines semaines?
Oui, tu peux aller chercher de la nourriture pour apporter à ta chambre et profiter des grands espaces. Mais ce sera possible, mais on demande la collaboration des gens. Mais c'est sûr.
Ça va être des casse-têtes infinis. Puis oui. Comment de toute façon les autorités vont faire pour aller vérifier dans la tente de camping? Donnez-nous vos papiers.
Une pinte de lait, à un moment donné, les gens vont quand même se rendre à l'épicerie. Il faut mettre de l'essence aussi quand on part sur la route. Donc, ce sera pas parfait. On verra. Par contre, les règles seront expliquées en détail par Caroline Proulx dans cette annonce attendue cet après-midi.
Oui, de toute façon, ça c'est ce ce qu'on nous dit aujourd'hui. La situation va sûrement évoluer aussi au fur et à mesure.
D'ailleurs, je peux ajouter le bilan. Vous l'avez entendu en début de bulletin de nouvelles de nos collègues de TVA LCN. Le bilan est quand même en baisse au niveau des cas encore. 541 nouveaux cas, alors qu'on augmente les tests, qu'on est en déconfinement. Alors, c'est quand même un signe qui va être encourageant pour le gouvernement du Québec à poursuivre le déconfinement, là. Les chiffres sont quand même rassurants.
D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Vincent. On va continuer à te suivre de façon ponctuelle pendant toute la journée sur Cube Radio. Après la pause, on va parler, parce que bon, évidemment, le reste de la vie continue. On va revenir sur la DPJ et la réaction de l'Ordre des travailleurs sociaux après la pause.